Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Nathalie Artaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Nathalie Artaud, le premier tour des régionales aura lieu le 6 décembre. Quel est l'enjeu du scrutin pour Lutte Ouvrière ?
C'est que les travailleurs, les ouvriers, les chômeurs qui veulent prendre la parole, dire tout le mal qu'ils pensent de la politique du gouvernement, dire leurs besoins, leurs exigences, leurs revendications, puissent le faire en votant clairement pour une liste qui est dans leur camp, Lutte Ouvrière. Parce que ça sera sans ambiguïté, Lutte Ouvrière. Justement, pour nous, c'est faire entendre le camp des travailleurs. Vous prenez le Parti Socialiste, vous prenez la droite, prenez le Front National, ils sont tous du côté du grand patronat. Et on l'a vu encore dernièrement avec ce qui s'est passé à Air France. Regardez comme ils ont tous condamné les salariés qui essayaient de se battre pour préserver leur emploi, qui ont laissé éclater leur colère. D'accord, mais justement parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ne supportent plus tous ces sacrifices et puis d'être mis à la porte comme ça. Donc on a vu avec Air France que finalement ces partis s'entendaient très bien hein, pour justifier et pour condamner, pour justifier la politique d'Air France et pour condamner les travailleurs. Eh bien nous, c'est l'inverse. Nous pensons qu'au contraire, les travailleurs, eh bien, à l'opposé justement du grand patronat, ils doivent faire entendre leurs intérêts.
Ils ont eu raison, ces salariés, de faire exploser leur colère de façon finalement assez spectaculaire, parce qu'on a vu ces images à la télévision. Vous approuvez finalement ce qu'ils ont fait ?
Moi, je suis complètement solidaire de quand la colère éclate, elle éclate. Et moi, je m'étonne même qu'elle n'éclate pas plus, cette colère, parce que quand on sait qu'on est maintenant à 6 millions de chômeurs, quand on voit comment dans les entreprises, c'est toujours à sens unique, hein, le gel des salaires, les suppressions d'emplois, l'allongement du temps de travail, la dégradation aussi des conditions de travail, qu'on voit que finalement tout ça, c'est pour enrichir toujours les mêmes, les propriétaires, les actionnaires, pour que les PDG se versent des parachutes dorés, des salaires exorbitants, il y a de quoi vraiment être en colère. Il y a de quoi être en colère de cette société, voilà, qui devient inhumaine et qui devient même barbare par plein d'aspects. Hein, regardez, on traite ici effectivement les travailleurs hein, de cette façon. On les laisse galérer sans logement, avec des transports qui se dégradent et puis surtout condamnés à la misère. Mais regardez aussi le sort qui est fait aux migrants. Donc oui, on est dans une société de plus en plus barbare où pourtant il y a de plus en plus de richesses qui s'accumulent à un pôle. Donc il y a de quoi. Il y a de quoi être en colère, être révolté. Et moi, effectivement, je suis solidaire de tous ceux qui n'acceptent pas la situation et qui veulent la changer. Donc, et ça passera évidemment par une révolte sociale, j'en suis convaincue.
On reparlera peut-être tout à l'heure d'Air France, Nathalie Artaud. C'est une élection locale, pour autant, pour vous, c'est un scrutin qui a valeur de test national. Ceux qui sont mécontents de la politique de François Hollande doivent voter pour exprimer leur mécontentement, c'est ce que vous êtes en train de dire ?
Moi je crois, bien sûr, quand même les classes populaires sont en droit de demander des comptes à ce gouvernement, hein, qui s'est fait élire en expliquant qu'il allait lutter contre le chômage. Aujourd'hui, on en est à 730 000 chômeurs de plus depuis que Hollande est élu. Il n'a fait que supprimer des droits aux travailleurs. Il n'a fait que servir la soupe au patronat. 40 milliards de cadeaux qui sont faits au patronat. Donc bien sûr, les travailleurs doivent s'emparer de cette élection pour dire tout le mal qu'ils pensent de cette politique. Et puis, ils doivent rejeter évidemment la droite qui est dans le camp du patronat et le Front National qui ne rêve que d'accéder à la mangeoire exactement comme les autres. Donc il faut qu'ils interviennent dans ce débat politique en leur nom propre, justement. Qu'ils prennent la parole contre tout ce qu'on entend sur les 35 heures, sur la réforme du code du travail, sur la nécessité d'être plus compétitif et donc toujours de supprimer des emplois. Et qu'ils affirment le contraire, qu'ils affirment qu'ils ont des droits dans cette société.
Mais qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche, les déçus de François Hollande, qui s'abstiennent à chaque élection depuis un ou deux ans et finalement qui ne votent pas pour le Front de gauche ou pour Lutte Ouvrière ?
Eh bien, que l'abstention, c'est la passivité. C'est la passivité et que finalement c'est plus la résignation que l'expression de quelque chose. Donc s'ils n'avaient pas le choix hein, que de voter pour des partis justement qui sont pro-patronaux, mais là avec Lutte Ouvrière, au moins le vote est clair. Cela montre qu'il y a une opposition au gouvernement socialiste, mais une opposition ouvrière sur le terrain des intérêts des travailleurs. Donc je pense que ça fait partie aussi des du rapport de force tout cela, parce que bien sûr, c'est très bien quand il y a des luttes, quand il y a des grèves et quand il y a des manifestations. Nous nous en appelons à l'intervention directe par en bas des travailleurs. Mais quand elle n'existe pas, quand il n'y a pas cette combativité-là, et qu'il y a l'occasion politiquement, dans le cadre des élections, de dire quand même un certain nombre de choses, il faut s'en saisir, il faut le faire. C'est une façon aussi de lever un drapeau, de dire que, oui, bien sûr qu'il y a des perspectives, le chômage, c'est pas une fatalité. C'est un combat qu'on doit mener contre le patronat, parce que si ils fabriquent tant de chômeurs, c'est pour leur profit, c'est pour leur rentabilité et pour les actionnaires. Donc voilà, c'est, vous comprenez, on voit beaucoup de catégories se battre. Regardez les agriculteurs, regardez les médecins. Ils se battent, ils interviennent.
Alors, les
il
médecins,
faut que les travailleurs, ils interviennent
les,
sur leurs
les médecins,
leur,
parfois, vous parlez des médecins, Nathalie Arthaud, ils se battent contre le tiers payant. J'imagine que vous êtes favorable au tiers payant.
Moi, je suis bien sûr favorable au tiers payant. Mais quand même... le gouvernement là ne se donne pas les moyens de le mettre en place, ce tiers payant. C'est ça le problème. Moi, j'accuse le gouvernement de ne rien faire pour que ce tiers payant puisse exister. Parce que regardez, bien sûr qu'il y a des médecins qui sont sur le principe contre le tiers payant, et ceux-là, ce ne sont pas des amis des travailleurs, c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup de médecins de famille qui sont très dévoués et qui ne veulent pas s'engager là-dedans parce qu'ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas avec les 400, 500 mutuelles, avec les remboursements, etc. Et le gouvernement ne fait rien pour mettre en place ce fameux guichet unique, vous savez, qu'il demande. Donc, tous ceux qui ne sont pas opposés par principe, et qui sont au contraire pour que la médecine soit accessible aux plus pauvres, eh bien, ils se trouvent confrontés à la difficulté quand même. Donc c'est ça le problème.
Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de luttes sociales, mais pas d'unité dans ces luttes. Ce sont des luttes catégorielles, et c'est pour cela que le gouvernement n'entend pas cette révolte.
Non, je dis surtout que dans ces luttes sociales, il y a un grand absent. Ce sont les travailleurs, c'est le camp ouvrier. C'est le camp des salariés qui ne se montre pas, qui ne s'affirme pas, qui ne
et les
or,
ouvriers aujourd'hui,
ils ont des revendications propres à eux.
Vous parlez de lutte des classes. Pour vous, la lutte des classes est plus présente que jamais en 2015. Nathalie Arthaud, aujourd'hui, la classe ouvrière, ce sont seulement les Français, les étrangers qui travaillent dans les usines, ou bien ce sont les salariés du tertiaire, ça peut être des catégories de fonctionnaires ou de personnes qui travaillent pour la fonction publique en situation de précarité?
Mais bien sûr, ce sont tous les travailleurs, c'est le monde du travail en général, et justement il faut s'opposer à toutes ces divisions. Regardez, Air France veut bien faire travailler les pilotes 100 heures de plus, donc en fait ils sont confrontés au même chantage à la compétitivité. En réalité, tous les salariés sont traités de la même façon. Quand on parle, nous, du monde du camp des travailleurs, c'est effectivement de l'ensemble de tous ceux qui sont exploités, qui ne vivent que de leur travail, et qui subissent depuis déjà des années et des années des reculs dans leurs conditions de travail. Le gel des salaires, c'est pas que dans le privé, c'est aussi dans le public depuis 5 ans. Les petits salaires, c'est aussi dans le public, c'est aussi dans les hôpitaux, c'est aussi dans l'éducation nationale, dans les collectivités locales. Donc on est tous traités de la même façon, et il faudrait que justement l'ensemble des travailleurs salariés, ceux qui n'exploitent personne et qui vivent que de leur travail, eh bien justement s'unissent, oui, pour faire entendre leurs revendications qui sont communes.
Et s'unir comment?
La première.
Par la manifestation.
Par les manifestations. Par les grèves. Nous pensons que le rapport de force, il est là. Il est dans la force collective organisée et consciente.
Chaque année, on annonce une rentrée sociale difficile. Finalement, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de grandes grèves en France. Vous le regrettez?
Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle le monde du travail recule. Et c'est pourquoi le patronat aujourd'hui se permet effectivement de remettre en cause tout un tas de choses. Et on recule, on en revient même à des situations qui sont proches, vous savez, du travail à la tâche. hein, au 19e siècle. Regardez, là, ils veulent nous faire, ils veulent démanteler le droit, le code du travail et quasiment faire des droits, chacun, voilà, aura des droits particuliers, mais on fait éclater, hein, tous les droits collectifs. Ça veut dire que, y compris les salariés des petites entreprises, comment vont-ils faire, eux, pour faire valoir leurs droits? Hein, il va falloir qu'ils négocient avec leur... Mais on sait très bien que c'est pas possible. On sait très bien que la discussion avec le patronat, c'est pas d'égal à égal. Hein, ce dialogue social là dont le gouvernement nous parle, tout ça c'est une mascarade. On n'est pas des partenaires, c'est pas vrai. Il y a d'un côté le patron qui a un pouvoir sur vous, le pouvoir de vous licencier, de vous verser un salaire ou pas, le pouvoir de dégrader vos conditions de travail, et vous qui êtes en situation d'infériorité. Voilà, c'est ça la réalité. Sauf quand on arrive à être réunis, quand on arrive à justement à faire valoir notre force collective, l'ensemble de la classe ouvrière, l'ensemble du camp des travailleurs. C'est bien cela que nous voulons faire comprendre.
Depuis quelques jours, on entend certains responsables politiques regretter qu'il n'y ait pas assez de syndiqués dans le monde de l'entreprise. Certains vont même jusqu'à préconiser l'obligation d'être syndiqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Arthaud?
Non, moi je pense que ça doit être une démarche consciente. Voilà, c'est que cette conscience que tout seul, on n'est rien face au patron. Quel que soit son statut, qu'on soit cadre, qu'on soit employé, qu'on soit ouvrier, on n'est rien tout seul. C'est ensemble, collectivement, que l'on peut peser, que l'on peut justement contrebalancer ce pouvoir patronal uniquement en étant réunis. Donc effectivement, le syndicat, c'est cette première étape, c'est cette première, ce premier niveau-là d'organisation. Et il faudrait qu'il soit non seulement plus, plus fort, les syndicats, avec plus de syndiqués, mais aussi plus vivant, qu'il y ait beaucoup plus de... que les travailleurs, voilà, fassent vivre hein, leur combat, le décident, l'organisent beaucoup plus. Mais ça, c'est lié à la fois à la conscience et à la fois à la combativité.
Qu'est-ce qui s'est passé en France pour que le pays ait autant changé sur le plan des luttes depuis les années 60? Finalement, vous regrettez un petit peu les combats de vos aînés des années 60?
Ah ben moi, je regrette les périodes où, les travailleurs ont réussi par justement leur rapport de force à faire reculer le patronat. Et il y en a eu des périodes comme ça, que ce soit en 36, que ce soit en 1968. Des millions de travailleurs dans la rue ont fait tellement peur au patronat qu'ils ont obtenu des avancées. Il n'y a que comme ça d'ailleurs qu'on les obtient. Donc moi j'espère qu'on renouera avec ces luttes-là. Je pense que si on a reculé là-dessus et sur cette conscience d'avoir des intérêts opposés au patronat, c'est aussi parce que les partis de gauche, parce que le Parti socialiste et le Parti communiste qui prétendaient représenter les intérêts des travailleurs ont abandonné ce combat, et parce que en gouvernant, ils ont finalement mené la politique que le patronat leur demandait. Non seulement cela, mais en plus ils ont participé à ce mensonge de nous expliquer que finalement il n'y a plus d'intérêt contradictoire dans la société, que tout ça peut concorder, qu'il y a l'intérêt de l'entreprise et qu'il suffit de s'entendre, qu'il n'y a plus de lutte de classe, que d'ailleurs il n'y a même plus de classe sociale. C'est ce que nous explique François Hollande, c'est ce que nous explique Valls et Macron aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour démolir la conscience de classe que ces partis, à l'origine, avaient réussi à propager.
Il y avait la phrase de Margaret Thatcher, je crois, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Aujourd'hui, cette phrase, tout le monde la partage aujourd'hui dans la classe politique.
Mitterrand, y compris, a commencé à expliquer que la même chose. Hein, et puis aujourd'hui, on nous prêche ça, hein, le réalisme, on peut pas faire autrement que d'être dans la concurrence, que de revenir finalement aux conditions de travail d'avant. Moi, je suis frappée de voir que aujourd'hui, on est traité d'utopiste parce que nous disons la retraite à 60 ans avec 37 annuités et demie de cotisation, quand nous disons qu'un emploi, c'est un CDI. On est traité d'utopiste alors que ça, il y a 35 ans, ça existait. dans le pays. Mais alors, vous rendez compte le recul?
Mais quand vous dites ça à un responsable politique d'un grand parti, il vous répondra que la mondialisation a tout changé et que la France est obligée de s'adapter. Ça, vous dites, non, la France peut être un cas isolé?
Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est simplement, c'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. Et depuis le début, et c'est pour ça que, y compris ces idées de lutte ouvrière, ont toujours été portées par des gens qui voulaient aussi transformer la société, les règles même de fonctionnement de la société. C'est aussi parce c'est la raison pour laquelle ces militants étaient aussi des militants communistes, révolutionnaires, et qui expliquaient que il faut se battre dans le cadre de cette société, mais avec l'objectif de la renverser, de renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Parce que si on acceptait cette course folle au profit, à la rentabilité, à la compétitivité, les travailleurs seraient toujours perdants, toujours forcés de s'incliner, de reculer, etc. Donc pour nous, ça va avec, ça va ensemble. Et à partir du moment où le Parti Socialiste et le Parti Communiste ont abandonné ces perspectives-là, eh bien oui, ils nous condamnent à cette politique réaliste, hein, où il faut toujours que les travailleurs reculent pour engraisser plus le grand patronat.
Alors il y a des partis qui suscitent un certain espoir chez des jeunes en Europe. Je pense à Syriza en Grèce ou Podemos en Espagne. Quel regard vous avez sur ces nouvelles formations politiques?
Bah, je crois que l'espoir que Syriza avait soulevé en janvier 2015 est quand même beaucoup retombé, hein, parce que tout simplement, on a vu que c'était davantage un marchand d'illusions qu'un véritable changement.
Mais est-ce qu'il avait le choix? Est-ce que Tsipras avait le choix, puisque vous parlez de rapport de force face à 27 pays qui lui disent non? Est-ce qu'il pouvait faire autrement?
Mais justement, c'est bien pour ça que nous, dès le départ, on a bien dit que la voie, hein, qui était proposée par Tsipras, d'aller négocier par en haut, d'essayer de tirer des larmes de ses créanciers et de ses dirigeants européens pour qu'ils relâchent un peu la pression, ne fonctionnerait pas, parce que ces gens-là, ils sont sans pitié. Parce que eux, il n'y a que le paiement, le remboursement de la dette qui compte. Donc nous avons toujours dit que cette voie électorale, faire croire que parce que il y aurait 60%, 70% des Grecs qui voteraient en faveur, hein, d'un allègement de la dette, eh bien, ils s'inclineraient. C'était une façon de tromper les gens. Donc il s'est mis dans une situation de Tsipras, qui était effectivement une impasse. Et c'est bien pour cela que nous ne voulons pas reproduire cette politique-là. Faire croire qu'il suffira de bien voter, d'élire quelqu'un qui ira négocier en haut au nom des travailleurs, c'est illusoire.
C'est-à-dire que si vous étiez élue présidente de la République en 2017, vous ne pourriez pas changer les choses en Europe?
Évidemment. Mais il faut remettre les choses à l'endroit. Si moi j'étais élue en 2017, ça serait sur mon programme. Et mon programme, il a toujours été de dire que il faut que les travailleurs se mobilisent pour arracher ne serait-ce que l'essentiel pour vivre, c'est-à-dire un emploi, un salaire, une retraite digne, qu'il fallait une pression par en bas, un rapport de force. Donc si jamais j'étais élue en 2017, cela signifierait un certain nombre de mouvements sociaux, de changements dans la combativité du monde du travail. Ça signifierait qu'il y a des grèves, qu'il y a des manifestations, ça ne signifierait tout ça. Vous voyez, jamais je me suis présentée en sauveur suprême en faisant croire qu'il suffirait de glisser mon nom dans l'urne pour que ça change. Justement, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, ça.
C'est-à-dire que l'élection d'un candidat de lutte ouvrière, ce serait la conséquence d'un mouvement social important.
Mais bien sûr. Et inversement, l'élection d'un homme ou d'une femme qui présente comme un sauveur suprême ne changera rien, parce que le pouvoir, il est au-dessus de tout ça, il est au-dessus de ces élections. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent, c'est le pouvoir du capital, qui nous explique que de toute façon, lui, il a ses propres règles, hein, et des règles intangibles, on peut pas y toucher. On peut pas les contester.
Est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles formes de mobilisation? On voit qu'Internet aujourd'hui joue un rôle important. On peut imaginer aussi que ça puisse passer par un boycott de certains produits, par la consommation. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer de nouvelles formes de lutte?
Moi, je crois qu'il faut toucher la bourgeoisie, le grand patronat au portefeuille, qu'il n'y a que ça qui peut le faire plier.
Alors comment?
Il y a que ça qui peut
retirer l'argent des banques.
Comment on peut le toucher au portefeuille? Eh bien, en arrêtant de remplir simplement leur coffre-fort, en arrêtant de travailler, en faisant grève, en manifestant, en occupant, pourquoi pas, oui, les usines, pourquoi pas, en occupant les banques, oui, pourquoi pas. Donc, tous ces mouvements-là, mais il faut les toucher aux portes. Il n'y a que ça qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Et tant que il n'y a pas cette volonté-là, eh bien, effectivement, ils se permettent tout. Et on voit qu'ils se permettent tout, parce que ils nous expliquent qu'ils sont obligés de licencier, mais ils n'ont jamais fait autant de profits, tous ces grands groupes. Donc, ils se permettent tout. Il n'y aura pas d'autre moyen que de les toucher au portefeuille, de leur faire peur, qu'ils craignent de tout perdre, parce que ils sont confrontés effectivement à une révolte sociale, aux travailleurs qui ne jouent plus, qui sont pas prêts à continuer à travailler pour eux, mais qui se révoltent.
Alors on voit des grèves de temps en temps, mais pas des grèves massives, des grèves solidaires. C'est donc pour ça que ces grèves n'aboutissent pas.
Oui, et aujourd'hui, il faut commencer par par démentir hein, tous ces mensonges, par conforter les travailleurs dans leur légitimité qu'ils ont à revendiquer sur leur salaire, revendiquer sur leur emploi. Vous comprenez, on nous met dans la tête qu'on est des privilégiés parce qu'on a un emploi. Voilà. Et les chômeurs sont aussi des privilégiés parce qu'ils ont des allocations au chômage. Enfin bon, si vous les écoutez. Hein, les classes populaires, les travailleurs, les chômeurs, tout ça, c'est des privilégiés. Hein, tout juste si c'est pas des coqs en pâte. Enfin bon, voilà. Et il faut inverser cela. Il faut inverser cela. Ça, ce sont des mensonges. C'est le mensonge patronal, justement. Et non, il faut bien se rendre compte que voilà, il y a des richesses. Le monde et la France en particulier sont très riches. Le patronat, il est très riche. Et ces richesses-là, il faut les arracher pour effectivement qu'on obtienne notre dû. On est au 21e siècle. Hein, on devrait pouvoir vivre dignement.
L'invité de Pluriel est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte Ouvrière, tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France. Alors, on a beaucoup parlé des luttes sociales en France, de votre programme. Finalement, c'est votre programme présidentiel, c'est le programme que vous présentez depuis des années. Finalement, le plus important pour vous, cette élection régionale, c'est pas le scrutin en lui-même, c'est l'occasion de pouvoir vous exprimer devant les Français, profiter de cette fenêtre qui s'ouvre pour les candidats.
Surtout que les électeurs du monde du travail aient envie de s'exprimer aussi. Voilà, on veut donner cette possibilité-là. Parce que, voilà, c'est les grands partis, que sont le Parti Socialiste, la droite et le Front National, ne sont pas dans le camp des travailleurs. Voilà. Ils parlent tous au nom de l'intérêt de la France, de l'intérêt de l'entreprise, mais c'est toujours finalement les intérêts de Bettencourt, de Bolloré, de Michelin, de cette grande bourgeoisie qu'ils défendent toujours. C'est jamais pour défendre des augmentations de salaire, pour défendre la nécessité d'embaucher et enfin de résorber ce chômage de masse. C'est jamais pour dire qu'on va améliorer les conditions de travail. Donc voilà, il faut que les travailleurs puissent dire leurs intérêts. Donc nous nous présentons pour leur permettre de s'exprimer. Nous espérons qu'un certain nombre va s'en emparer. Si le score de Lutte Ouvrière augmente, eh bien ça sera un encouragement, oui, pour tous ceux qui se résignent pas à tous ces sacrifices, à ces reculs. Donc c'est ça notre objectif.
On voit une sorte de basculement quand on regarde les sondages. En 2010, Europe Écologie avait fait 16% des voix. Là, les projections les donnent à 6 ou 7%. Le Front de Gauche, je me souviens plus exactement du score, mais il se rapproche des 10%. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a un désir de gauche aujourd'hui en Île-de-France?
Mais moi, je me reconnais pas dans ce mot gauche, parce que ça veut tout et rien dire, et puis on s'en rend bien compte.
Le front de gauche n'est pas de gauche.
Tout le monde s'en. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, la gauche? C'est la gauche de Macron, c'est la gauche de Hollande, de Valls, c'est la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, la division n'est pas là. La division, c'est est-ce que la politique menée va dans l'intérêt des travailleurs ou pas? C'est ça qui est fondamental. Sinon, on confond tout, hein, on mélange tout.
Alors, c'est quand même une élection locale où on va parler des transports, des lycées, de l'apprentissage, la formation professionnelle, le logement. Est-ce que vous avez un programme spécifique pour l'Île-de-France, Lutte Ouvrière?
si nous avions des élus dans le conseil régional, eh bien on appuierait toutes les mesures qui vont dans le sens des plus pauvres, des travailleurs, des classes populaires. Et on dénoncerait toutes celles qui sont des cadeaux au patronat. Et le conseil régional en fait des cadeaux au patronat par dizaines de millions. Eh bien, c'est des subventions aux entreprises pour qu'elles exportent, pour qu'elles innovent, pour qu'elles forment. Voilà. Et c'est de l'argent qui est versé à fonds perdus. Enfin, pas pour tout le monde, parce que, justement, le patronat de la dite entreprise en poche.
Si vous aviez la majorité au conseil régional d'Île-de-France, vous baisseriez encore plus le tarif des transports qui a déjà baissé de 40 euros pour les habitants de la Grande Couronne?
Il y a peu de chance pour qu'on ait cette majorité-là, mais ce qui est sûr, c'est que on trouve normal que ce soit le patronat qui finance l'intégralité en fait des transports. Parce que, regardez, y compris dans les transports, comment les salariés, les chômeurs sont coincés. Parce que d'un côté, ils choisissent pas leur entreprise. D'ailleurs, on leur demande d'être mobile, d'être flexible, de pouvoir faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Et puis de l'autre côté, on les condamne à vivre dans des quartiers le plus loin possible du centre-ville où ils peuvent aller parce que le loyer est un petit peu plus bas. Donc, on force les salariés à faire des dizaines de kilomètres tous les jours et pour le travail. Donc nous disons ça devrait être au patronat de financer la totalité de ce transport et pas aux salariés.
Qu'est-ce que vous pensez de la tendance actuelle à créer des centres commerciaux dans les gares pour permettre aux salariés de consommer quand ils ont terminé de travailler là où ils prennent les transports en commun?
On pourrait se dire que c'est un aspect de facilité, mais tout ça aussi, ça montre quoi? Ça montre que les gens, ils courent du matin au soir. Ils courent, ils passent des heures et des heures dans les transports parce que les horaires de travail sont de plus en plus durs, longs, et la journée, voilà, elle est, c'est impossible de tout faire rentrer dans une journée. Alors il y a des gens qui essayent de tout faire, effectivement, en faisant des courses comme ça entre deux trains. Mais vous voyez, c'est aussi c'est révélateur, je trouve, de la situation actuelle où on n'a plus effectivement le temps de vivre. Mais au-delà de ça, moi, surtout, il faut quand même noter que le problème numéro un, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est le problème des bas salaires, c'est le problème des petites retraites, des petites pensions, c'est le problème du chômage qui fait que justement on n'a même plus d'argent en fait pour consommer tout court. Et ça c'est un problème fondamental.
Le conseil régional, la catastrophe numéro un quand même. Le conseil régional par exemple pourrait agir sur les loyers en Île-de-France. Vous pensez que c'est du ressort du conseil régional?
Moi, je ne crois pas que ce soit du ressort du conseil régional, et je ne crois pas que de toute façon ceux qui dirigeront demain le conseil régional auront cette préoccupation-là.
Comment vous pouvez améliorer le pouvoir d'achat par le biais de la région?
Non, mais justement, on va pas raconter de mensonges. C'est pas possible. Et ce n'est pas possible ni par le conseil régional ni même par une élection présidentielle. Comme je disais tout à l'heure, améliorer le pouvoir d'achat, ça va nécessiter des luttes contre le patronat, parce que c'est lui qui fixe le salaire, c'est lui qui est le responsable de l'exploitation, c'est ce pouvoir économique. Il faut bien se rendre compte que finalement, ce pouvoir politique, ces différentes institutions, elles sont là pour servir le patronat, mais celui qui a le pouvoir, celui qui décide et qui a un pouvoir sur la vie du monde du travail, c'est le patronat. Donc comment on peut agir, comment on a prise sur lui? Eh bien on a prise par le seul moyen, il n'est pas élu, il n'y a pas d'élection, pour y compris sa politique de suppression d'emplois, il ne la soumet pas à référendum, il ne la soumet pas à élection. Tout ça, c'est des décisions qui sont prises dans des conseils d'administration à quelques grands actionnaires. Donc comment peut-on agir, réagir contre tout ça? Eh bien c'est seulement la force collective, les luttes, les élections. C'est une façon pour nous d'exprimer un certain nombre de choses, d'affirmer l'existence d'un camp ouvrier. Mais c'est pas cela qui va changer la vie, ça
c'est
sûr. Vous
êtes inquiète de voir certaines entreprises américaines bien implantées en France, je pense par exemple à Amazon, qui ont des conditions de travail très particulières pour les salariés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des normes américaines qui sont en train, je dirais, d'être des normes françaises aujourd'hui?
Non, mais moi, je crois que c'est surtout des normes patronales, si vous voulez. C'est pas une question de nationalité. Hein, la rapacité patronale.
Il y a eu des enquêtes sur Amazon, notamment, qui montrent que c'est extrêmement difficile pour les salariés.
Mais c'est vrai. Mais c'est difficile aussi chez Carrefour. C'est difficile dans plein de centres de distribution. C'est difficile à la Fnac aussi. C'est difficile dans les usines, à Peugeot, c'est difficile. Là, de plus en plus, parce que le patronat, effectivement, il revient sur tout un tas de droits, de conditions de travail. Et ça, c'est pas une question de nationalité. Alors ça, j'y crois pas du tout. C'est pas une question de nationalité, c'est encore une question de rapport de force selon les entreprises. Regardez les entreprises où le patronat veut faire travailler 39 heures payées 35. Il regarde, hein, est-ce que il pense que ça va passer ou pas dans l'entreprise, est-ce qu'il y aura des réactions ou pas, il mesure, il teste. Voilà, et si ça passe, eh bien il le mettra en place.
Donc qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'attitude des salariés de Sephora à Champs-Élysées qui ont demandé à pouvoir travailler le soir et le dimanche, une majorité de salariés l'a réclamé.
Mais je pense que c'est pas par plaisir qu'ils ont réclamé de travailler le soir. C'est pas parce qu'ils adorent être à 23 heures en train de vendre du parfum ou des crèmes. Hein. Non, c'est pas ça. C'est simplement que c'est des salariés qui ont des petits salaires et faute d'avoir des perspectives d'évolution, eh bien ils espèrent comme ça gagner quelques sous de plus et pouvoir mettre un petit peu de beurre dans les épinards. C'est ça la réalité. C'est ils sont pris à la gorge. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent, hein, par ce biais-là, de repousser un petit peu les échéances. Mais regardez, ça c'est un piège. Le problème, c'est que c'est un piège. On nous explique que là, c'est volontaire. Hein, mais demain, ça ne le sera plus volontaire. Regardez ce qui se passe à la Redoute quand même. Hein, alors à la Redoute aussi, on nous a expliqué que le travail de nuit, le travail en soirée, c'est le travail en soirée à la Redoute, à Roubaix, c'était au volontariat. Il se trouve qu'il n'y a pas assez de volontaires. Donc qu'est-ce que le patron organise? Il pense organiser un tirage au sort. Voilà, un tirage au sort. Donc on va forcer les salariés à travailler en soirée. Donc vous voyez, le problème c'est que tout ça, on utilise à un moment donné une situation où les travailleurs n'ont pas le choix pour expliquer que finalement c'est eux, ils sont d'accord, ils sont volontaires et donc on peut comme ça reculer sur un certain nombre de droits. Mais le problème c'est que quand ça va se généraliser tout ça, ça sera plus au volontariat et y compris ça sera plus majoré.
Vous pensez
que
le travail du dimanche, vous pensez il va se généraliser en
France ?
Et
pareil pour le travail du dimanche. Pareil pour le travail du dimanche. D'ailleurs, il y a déjà des conflits autour du travail du dimanche, puisque le patronat là, du commerce ne veut plus majorer à 50% le travail du dimanche. Alors, il a obtenu le droit maintenant d'ouvrir quasiment tous les dimanches, et maintenant il veut obtenir la possibilité de les payer comme si c'était un jour comme un autre. Voilà, c'est clairement là on a un patronat, si vous voulez, qui veut de la main d'œuvre malléable et corvéable à merci et qui est plus limite, plus aucune limite. Aujourd'hui, il se sert du fait qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui n'ont pas le choix, qui se disent finalement ça sera peut-être ma seule possibilité de m'en sortir, pour nous expliquer que même les salariés sont d'accord. Mais ça c'est un véritable piège et il faudrait tenir bon au contraire sur toutes ces limites.
Nathalie Arthaud, on ne parle plus beaucoup ces derniers temps des réfugiés. Qu'est-ce que vous pensez des décisions prises par l'Allemagne et la France sur la question des réfugiés?
Je fais quand même une différence entre les décisions prises par l'Allemagne et par la France. Hein. Parce que quand même, Hollande nous a expliqué que la France était une grande terre d'accueil et que c'était même l'honneur de la France. Moi, je trouve qu'il met l'honneur de la France bien bas en expliquant qu'il va accueillir 24 000 réfugiés syriens. Parce que franchement, c'est rien et c'est notoirement en dessous de ce qu'il faudrait. Bon, et en fait, nous sommes opposés aux quotas. Nous pensons qu'il faudrait la liberté de circulation et la liberté d'installation pour tous les migrants. Voilà, ce sont des femmes et des hommes qui cherchent un endroit pour vivre sur cette planète. Et la moindre des choses, ça serait effectivement de leur permettre de le choisir. là où ils peuvent justement trouver un emploi et s'installer. Et que toute autre politique, cette politique des quotas, de limitation et de restriction, de fermeture des frontières, c'est une politique qui est criminelle. C'est ça justement qui fait le jeu des passeurs. C'est ce qui fait qu'il va y avoir des gens qui vont mourir asphyxiés dans des camions pour essayer de passer les frontières. C'est ce qui fait qu'il va y avoir des gens électrocutés aux abords du tunnel de la Manche. Donc c'est une politique criminelle. Et criminelle sous un autre aspect aussi. Parce que c'est aussi finalement de la responsabilité des dirigeants impérialistes et des dirigeants français ce qui se passe en Syrie, en Irak, en Libye aujourd'hui. C'est de leur responsabilité, parce que c'est leurs intérêts, c'est leur brigandage qui a donné naissance finalement à ces groupes barbares et à cette guerre. C'est leur manœuvre, c'est le fait de s'appuyer sur les uns contre les autres, d'armer une bande contre une autre pour préserver leur influence qui a mis la région à feu et à sang aujourd'hui.
Vous approuvez les frappes françaises contre Daesh en Syrie ?
Bien sûr que non. Parce que cette guerre et ces frappes, c'est justement elle qui crée le chaos et qui renforce ces mêmes bandes. Donc on n'en finit plus. On n'en finit plus. Cette guerre là contre le terrorisme, elle est déclenchée depuis quoi ? 2001, pardon. Ça fait maintenant plus de 10 ans, ça fait 14 ans. Et les foyers terroristes se multiplient. Alors, il faut quand même en tirer une conclusion. C'est que au contraire, ça en rajoute. Ça rajoute des morts aux morts, des destructions aux destructions et des terroristes aux terroristes. Donc non, il faudrait. Nous ne sommes absolument pas solidaires, nous les dénonçons et nous disons que voilà, toutes ces frappes-là, elles ne sont pas faites en notre nom à nous.
Est-ce que ça vous pose un problème moral que la France vende pour des contrats très importants des armes aux pays de la région, sachant que cet argent, évidemment, rentre dans le PIB de la France?
Bien sûr que je le dénonce. Bien sûr que c'est scandaleux. Tout ça au nom de la démocratie, hein, le pays des droits de l'homme, effectivement, on va vendre à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, hein, un régime dictatorial. On va vendre des armes à des régimes dont on sait qu'ils soutiennent. C'est la peine de mort, c'est des conditions d'exploitation barbares, c'est l'oppression des femmes. Donc effectivement, moi je dénonce il n'y a que le business qui compte.
Et en même temps, ça donne de l'emploi à des travailleurs français, Nathalie Arthaud.
Je crois que les ingénieurs, que les cadres d'assaut, de Safran, de tous ces grands groupes de l'armement, ils sont capables et de fabriquer d'autres choses. Et si on leur demandait leur avis, je pense que ça les intéresserait, y compris de fabriquer justement des biens qui soient plus utiles à l'ensemble de la population. Vous savez que le marché de l'armement soit un des plus prospères, comme le marché du luxe, je pense que ça juge vraiment la société capitaliste. Hein, tout est bon pour faire du fric. Et ça aille dans les mains de n'importe qui, ils s'en moquent. Ils s'en moquent que ça se retourne contre les peuples, contre les populations. Ils s'en moquent pourvu qu'ils fassent de l'argent. Eh bien, justement, c'est une des raisons, nous, de notre révolte. Une des raisons pour lesquelles on est des révolutionnaires. Qu'on pense que cette société, elle est inhumaine, elle est barbare, qu'il faut la changer. Si on est dirigé que par le profit, que par l'argent, où va-t-on ?
Nathalie Arthaud, on connaît votre combat, le combat de lutte ouvrière pour les droits des Palestiniens. J'imagine que vous êtes très sensible aux images de ces enfants tués par l'armée israélienne, les violences que l'on voit depuis plusieurs jours. Comment vous analysez la situation actuelle en Palestine ?
Comme la suite d'une longue série. Voilà, et ce qui est aussi assez choquant, toujours, hein, c'est que quand vous regardez, on dénonce la violence, mais c'est la violence des Palestiniens qui est dénoncée bien souvent. C'est qu'on qualifie d'attentats, de terroristes, etc. Moi, je pense depuis toujours que il y a un terrorisme d'État. C'est l'État israélien qui, effectivement, terrorise la population palestinienne. J'ai dénoncé la situation faite à Gaza, hein, en Cisjordanie, et y compris, ils utilisent, eux, les moyens d'un État, les moyens militaires d'un État. Et quand vous regardez les morts, eh bien, c'est les Palestiniens qui payent le plus lourd tribut. En réalité, hein, ce conflit, cette guerre, évidemment, elle peut être résolue que par l'accès pour les Palestiniens à un véritable État, à l'État palestinien. Hein, il faudrait, la seule issue possible aujourd'hui. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, la politique de Netanyahou, hein, d'Israël, elle fait tout pour que ça ne soit pas possible. Donc, elle fait tout, et quand les Palestiniens ne se battent pas, eh bien, ce qu'on voit, c'est que la colonisation, elle continue. Et quand ils essayent de réagir, eh bien là, on voit toute la répression dont Israël est capable. Et évidemment, c'est ignoble. Et ce qui est scandaleux, c'est que les grandes puissances laissent faire, sont complices.
Que devrait faire l'Europe, Nathalie Arthaud, puisque l'Europe finance notamment l'autorité palestinienne?
Mais ça veut dire qu'ils ne veulent rien faire. Il faut tirer la conclusion, hein, de ça. Ils auraient les moyens de peser, les États-Unis en premier lieu. Hein, les dirigeants américains, ils auraient la possibilité de peser et de faire en sorte, y compris les décisions de l'ONU, parce que quand même, hein, ces gens qui nous expliquent que la légalité, c'est ce qu'il y a de plus important, qu'il faut respecter les textes internationaux, les traités, etc., hein, qu'il n'y a que ça qui compte, qu'est-ce qu'ils font pour que ces traités ils soient respectés en Israël et en Palestine? Rien du tout. Donc la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est qu'ils ne veulent pas. Les Américains ne veulent pas mettre en colère ou déranger ou gêner l'État d'Israël. Donc ils sont complices. Et c'est pareil pour les dirigeants européens. Hein, ils laissent faire. Donc ils sont complices. Il faut en tirer la seule conclusion possible. C'est que ça sera, là encore, il faudra un mouvement, je crois, de la population d'en bas, de solidarité vis-à-vis du peuple palestinien pour que les choses se décoincent et aillent dans le bon sens.
Dernière question, Nathalie Arthaud, j'en reviens aux élections régionales du 6 décembre. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche, même si vous n'aimez pas le terme de gauche, qui vont choisir peut-être entre lutte ouvrière et le front de gauche?
Eh bien, je dirais que le vote pour lutte ouvrière, c'est un vote qui est sans ambiguïté. Voilà, c'est le vote justement pour mettre en avant les intérêts des travailleurs, ce dont ils ont besoin là aujourd'hui, c'est-à-dire les emplois, les salaires, des meilleures conditions de travail, les retraites. C'est d'affirmer un camp que les travailleurs, eh bien oui, ils ont droit aussi à la dignité, ils ont droit à la vie. C'est d'expliquer que finalement c'est ce qui manque en politique aujourd'hui pour que les choses aillent à nouveau dans le bon sens, c'est que les travailleurs s'expriment, se battent sur leurs revendications. Donc ça, c'est le vote pour lutte ouvrière. Et quant aux autres, eh bien, il faut bien les écouter. Hein. Jamais, il ne s'agit des intérêts des travailleurs. Donc il faut que les travailleurs en profitent pour faire entendre leur propre camp.
Et merci Nathalie Arthaud. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière et tête de liste pour les élections régionales en Île-de-France. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.